CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. On a souvent invité ici la compagnie ACT pour parler de leur projet. Eh bien, dites-moi, ils ont 15 ans quand même, hein, mine de rien, les ados. Ce sont des ados quand même, avec toujours des projets aussi fous, toujours cette fougue d'adolescents. Et notamment, ils vous invitent aussi un petit peu à leur fête. Alors, on va en parler effectivement, c'est l'objet de ce mag. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors. Et c'est toujours effectivement la folie quand on a 15 ans comme ça. Bonjour Cédric Brossard.
Ben bonjour.
15 ans, alors pas toi, hein, mais alors directeur d'abord, on va dire directeur artistique, metteur en scène de la compagnie ACT.
C'est ça.
Ben dis donc, 15 ans, ouais.
15 ans.
C'est passé vite ou pas?
15 ans, ça passe vite. Surtout quand on enlève 2-3 ans de confinement au milieu. Entre les 10 ans et les 15 ans, on n'a pas vu le temps passer.
Du coup, rattrape tout.
On rattrape tout.
Bon, voilà. On rappelle un petit peu la jeunesse de cette compagnie. Alors, puisqu'on refait un petit peu l'histoire.
Eh bien, allons-y. Alors, la compagnie ACT 2007, on s'installe à Marmignac, en Sud-Bourriane, à la frontière de la Dordogne. Et à l'époque, on décide de travailler autour de la mythologie grecque. L'idée, c'était d'explorer un petit peu notre histoire, on va dire occidentale, européenne, du théâtre, en travaillant sur des cycles mythologie grecque, et puis ensuite de remonter petit à petit le temps.
D'où le nom, d'où le nom alors ?
C'est un des... D'où le nom. ACT, c'est tiré des Métamorphoses d'Ovide, et c'est un personnage qui a rencontré Dionysos, qui est un marin, et pour moi, il y a vraiment ce lien, parce que la mythologie grecque, c'est quand même assez délirant, assez fascinant. Et en même temps, en tant que marin, c'est ce lien avec la marine. J'aime bien cette analogie entre le théâtre et ses équipages de bateaux, parce qu'en fait, c'est à peu près de ça dont il s'agit. On construit un équipage, on décide ensemble un bateau, on sait le port duquel on part, on sait où est-ce qu'on aimerait arriver, tout ce qui va se passer au milieu, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on va affronter
vents et tempêtes,
mais aussi calme plat, ouais. Et devoir sortir les rames. Et on sera tous ensemble sur le même bateau. Et il s'agit qu'on arrive tous ensemble à la même destination. Et pour moi, il y a vraiment cette question d'aventure humaine, en fait. Et le théâtre, c'est ça. Il s'agit d'une aventure
Alors, je
humaine.
Pense que quand vous avez créé cette compagnie, vous ne pensiez pas que cette aventure allait se retrouver pendant 2-3 ans, effectivement, dans cette situation, dans le bateau de mer calme, complet,
alors,
et tous dans la même
ça.
Galère, quoi.
C'est ça. Et donc, voilà, quelques temps après, finalement, bah, c'est aussi ça, les aventures humaines, c'est qu'il y a des séparations, etc. Et finalement, on a fait un immense bond dans le temps, c'est-à-dire que de la mythologie grecque, on a plongé dans les auteurs vivants. C'est mes premières amours. Moi, j'ai vraiment découvert le théâtre avec les auteurs vivants. Et donc là, en 2009, on avait monté Big Shoot de Kofi Kwaoulé. Et ça a été le grand saut dans les auteurs vivants francophones, avec des textes d'auteurs souvent très engagés qui abordent des sujets de société qui me sont chers. Après, moi, c'est vraiment ce qui m'a amené au théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre? Parce qu'on a une injustice qui bouillonne dans le ventre, parce qu'on a quelque chose, un cri qu'il nous faut pousser, et que la scène, c'est un lieu merveilleux pour pousser des cris.
C'est même que ça, d'ailleurs, vos pièces, j'ai envie de dire. C'est toujours revendicatif.
Oui. Moi, je sais que ce qui est aujourd'hui l'ADN même de la compagnie, c'est de cheminer un temps avec des auteurs vivants. On a commencé cette expérimentation avec un auteur togolais, Gustave Akakpo, de qui on a monté Arrêt sur image, puis à Batalep, on l'a fait venir en résidence d'écriture. Il avait réécrit On veut percer, on lui a passé commande pour Bolando, roi des Gitans. Enfin, on a eu tout un grand cheminement. Et en fait, c'est devenu un petit peu une méthode de travail, de cheminer tout un temps avec les auteurs. Et dans cet ADN de la compagnie, ce sur quoi on s'appuie... Il y a une phrase qui est dite en général par le préfet ou l'ambassadeur ou le président de la République, en fonction de là où ça se passe, dans une cérémonie de naturalisation. On dit en substance, parce qu'ils l'adaptent un petit peu comme ils veulent cette phrase, mais en gros, il est dit « Aujourd'hui, vous devenez français, Et devenir français, c'est faire vôtre l'histoire de la France, l'enrichir de votre propre histoire. Et cette histoire, vous allez l'assumer dans ces pages de grandeur comme dans ces pages sombres.
Mais au départ, parce que ACT, c'est aussi une compagnie qui est engagée dans l'intégration, j'ai envie de dire, dans la lutte contre contre le racisme, contre l'intolérance.
Tout à fait.
C'était ça au début, à la base ? Ou est-ce que c'est arrivé machinalement parce que est-ce qu'il y a 15 ans, finalement, on voyait tout ça ?
Alors, il y a 15 ans, on voyait
tout ce
pas
contre,
forcément...
Contre quoi vous battez ?
Alors, on ne le voyait peut-être pas, mais c'était néanmoins là bien présent. De toute façon, l'histoire coloniale de la France, ça date depuis longtemps. Ça fait bien longtemps que la France est le troisième vendeur d'armes au monde. Les indépendances ont été mises en place à l'époque de Gaulle, les réseaux Focard, etc. Le génocide du Rwanda, c'est en 1994, c'est il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, c'est vrai.
C'était sous Mitterrand. Et en fait, depuis, il n'a cessé de se passer des exactions de ce type. Et les liens entre la France et l'Afrique ont évolué, mais ne se sont pas... assaini, donc ça a toujours été quelque part extrêmement présent.
Disons, j'ai surtout envie de te dire que à ce moment-là, on n'avait pas, toute cette manifestation de haine, justement.
Oui.
C'était encore, on n'osait pas affirmer qu'on était contre les étrangers, tandis que maintenant il y a les réseaux sociaux, mais je te l'annonce, et puis maintenant il y a Marine qui est au deuxième tour, quoi.
Ça, c'est vrai.
Et Zemmour qui est pire aussi que Marine.
Ça, c'est vrai.
Vous avez dû avoir chaud quand même.
Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement à la mode en ce moment, c'est les droits culturels. En fait, les droits culturels, ça s'appuie sur tout simplement les droits humains. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est tout ce qui est droit à la dignité et le droit d'accès à la culture de chacun. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une arme surpuissante contre toutes les velléités identitaires. Parce qu'en fait, c'est ça qui reconnecte chacun avec sa propre culture, les cultures en général et la dignité. Le propre des droits culturels, c'est faire humanité ensemble. Et en fait, j'ai envie de dire, voilà, ce qui a toujours été présent dans l'histoire de la compagnie, même si on n'a pas toujours abordé les mêmes questions, c'est la nécessité d'une implantation sur un territoire et d'avoir une exigence artistique dans notre approche créatrice, mais qui ne soit pas hors sol, qui ne soit pas déconnectée du territoire dans lequel on vit et on habite, que ce territoire ne soit pas qu'une base reculée ou un siège social, mais que ce soit véritablement un point d'ancrage.
On ne vous a pas accusé d'être complice du terrorisme aussi ?
Bah, on peut nous
accuser
de
pas mal de choses,
mais
oui.
Moi, après, ce qui me... par exemple, dans ces questions grinçantes, parce que ça fait toujours grincer, c'est que...
C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, j'aime
Oui, bien sûr. si on reprend les deux grands temps de terrorisme qu'ont vécu la France, on se rend compte que ces terroristes ont laissé leur carte d'identité française. C'est pas une attaque qui vient de l'étranger, c'est pas une civilisation étrangère qui en veut à notre identité, c'est la cohésion même de la France qui est totalement fracturée. Et on paye très cher et trop lourdement le prix des exactions qu'ont commises nos politiques. Et cette fameuse République une et indivisible, elle n'est que théorique en fait, parce que les fractures sociales, elles mènent malheureusement à des actes de désespoir incompréhensibles. Mais quelque part, pour moi, c'est très important aucunement d'excuser, mais de chercher à comprendre. En fait, il ne faut pas... moi, je refuse le diktat de l'émotion. Il faut garder au maximum la tête froide et essayer de comprendre. Et comprendre, ça n'est aucunement accepté ou excusé. C'est tenter de comprendre les mécanismes pour que, justement, on puisse agir dessus et que ça n'ait plus lieu. C'est trop facile uniquement de pleurer et de recommencer le même schéma.
Mais vos projets que vous avez, justement, aussi, sont toujours, effectivement... très fragile. Je veux dire, si à un moment l'extrême droite passe au pouvoir, vous savez très bien que vous avez quasiment plus de financement ou de légitimité presque dans ces projets, non ?
Je sais pas.
Vous êtes posé la question, non ?
Oui, bien sûr. Et en fait, je pense que la légitimité, on en aura encore plus que si l'extrême droite devait passer au pouvoir.
Mais le combat serait différent, là. Il serait
Le combat serait différent. Je pense surtout qu'il serait, mais il est déjà le signe d'un échec de nos différentes politiques. C'est qu'à force de jouer avec le feu, ce feu va finir par tout brûler. Et quelque part, l'extrême droite, moi, justement, encore une fois, j'en reviens au droit culturel, je me refuse de tout simplement penser que les gens sont devenus plus racistes, plus cons ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment, à force d'attiser la haine, à force de jouer avec cette injonction et d'agiter le drapeau de la haine, à force de jouer avec la peur qui se cristallise pour amener le Front National au deuxième tour et ensuite faire en sorte que tout le monde, par peur, finissent par faire un bloc républicain, à un moment, ça va finir par arriver. Il ne faudra pas faire culpabiliser les citoyens, en fait, quelque part, les habitants en France font ce avec quoi, enfin, chacun fait avec ce qu'il peut, c'est trop facile d'indexer des personnes à qui on ne donne pas les billes et les moyens, voilà.
On sait que, bon, en même temps, dans le Lot, on est encore assez protégé. Les Lotois sont plus humains et plus. Je voulais dire généraliste et pas ça, mais bon, plus humains en tout cas, plus généreux. Mmh. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Alors, 15 ans comme ça, quel est le bilan que comment tu décris ce parcours là depuis alors 15 ans, j'ai pas fait le calcul, ça fait 2007. Je suis très mauvais en calcul mental, hein, pardon. Du coup, comment tu décris ce parcours fabuleux quand même, parce qu'au départ, est-ce que vous étiez bénévole ou c'était déjà une compagnie professionnelle?
Alors en 2007, on installe une compagnie professionnelle. Alors après, le statut des uns et des autres, évidemment, on est dans des métiers où l'auto-exploitation est le premier critère. Voilà, mais ça peut durer jusqu'à très très longtemps. Oui. C'est juste qu'au bout d'un moment, on accepte de plus prendre de coups de téléphone du boulot après 21h et les week-ends, etc. Mais on a quand même la chance en France d'avoir le statut, enfin qui est un régime d'indemnisation chômage de l'intermittence du spectacle. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait qu'il y a énormément de compagnies et qu'il y a énormément de professionnels du spectacle vivant. Avec de la précarité, énormément, avec de la fragilité. Après, clairement, ça reste des boulots où l'ascenseur émotionnel, c'est notre lot quotidien.
Voilà, vous avez été gâté, hein.
Voilà. Ce qu'on recherche tout le temps, c'est l'équilibre. On n'espère pas avoir une année entière avec uniquement des bonnes nouvelles. Ça n'arrive pas, ou alors ça cache quelque chose de dramatique qui va arriver ensuite. Donc voilà, on jongle avec ces incertitudes. Chaque année, c'est une nouvelle année qui commence. On ne tient jamais rien pour acquis. Même quand on a quelque chose d'acquis, il suffit d'une élection, quelle que soit sa taille, pour tout remettre à plat. Entre autres, enfin...
Voilà. Cédric Brossard, est-ce que ça te choquerait si je te disais que la compagnie ACT, pour moi, c'est pas une compagnie comme les autres? Il y a une différence.
Ah.
Bah, il y a une différence, c'est que effectivement, vous êtes plus dans l'engagement tout au long de votre parcours. Votre parcours, c'est effectivement, on en parlait, l'intégration, mais des pièces francophones. Mais donc, quand on dit francophone, ce sont des gens qui sont à l'étranger. On est d'accord.
Hein? Alors. La francophonie, c'est intéressant parce que je
il y a une grosse définition, alors.
Bien sûr, parce que je continue à employer ce terme de francophonie précisément parce qu'il est polémique. Il est polémique.
Ah oui, t'aimes bien ça aussi, la polémique.
Hein. Ben oui, parce que ça crée le débat.
Ouais.
La francophonie, il faut savoir ce à quoi elle renvoie. Et elle nous renvoie, alors de manière très basique, au fait que l'on partage une langue. Je suis toujours sur 65, mais on n'est pas loin de 70 millions d'habitants en France. Donc ça, ce sont les Français. Il y a 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. Donc il est totalement illusoire pour la France de s'imaginer soit en dehors de la périphérie de la francophonie, soit totalement en son centre. Elle en fait tout simplement partie. Et le plus grand nombre, 50% des locuteurs sont en République démocratique du Congo. Le français aujourd'hui se parle en Afrique. Donc à un moment, en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du moment où on décide de dire qu'on parle d'une littérature francophone, on parle d'une littérature mondiale, à laquelle, dans laquelle se reconnaissent une communauté linguistique sur les 5 continents. Alors que quand on parle de littérature française, on ne fait que parler d'une littérature nationale. Voilà. Et la littérature française, est une littérature francophone.
Bon, ok, très bien. Alors finalement, j'étais content parce que je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la différence. Puis là, il est en train de me rajouter. Bon, on est en train de philosopher. La compagnie ACT, cet été, ça va à Avignon ou pas alors?
Non, on y était l'année dernière.
Et ça a donné quoi?
C'était très compliqué.
Ouais, hein.
On y est allé pour conjurer le sort, hein, parce que de toute façon, on se dirige doucement vers la pièce qui nous amène ici, que l'on devait jouer, donc qu'on a créé en mars 2020 à Toulouse, qu'on devait jouer en juillet 2020. Donc évidemment, tout a été annulé. Donc quand on a vu qu'en juillet 2021, c'était possible... c'était vraiment important en fait de sortir de cet isolement, de se retrouver, de jouer le spectacle. On était vraiment ravis hein, de le faire et c'était hyper important pour nous.
Mais il y avait le pass sanitaire, il y avait le masque, ça devait être compliqué.
On a mangé le pass sanitaire en plein milieu du festival, ça a quand même été un coup très violent. Et encore une fois, c'est arrivé en plein milieu. Et ce qui est très violent, plus que les mesures politiques, parce qu'après des mesures politiques, moi je suis pas assez qualifié pour savoir la pertinence d'un pass sanitaire ou pas. Si à un moment il y a des comités entiers scientifiques qui se réunissent, etc. C'est pas à cet endroit-là.
T'es comédien, pas médecin, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, voilà, moi je fais du théâtre. En revanche. Ce sont les incohérences et les injustices qui sont criantes. C'est que en plein milieu du Festival d'Avignon, le secteur culturel a mangé très sévèrement et de manière unilatérale le pass sanitaire, là où derrière, sur les restos, on leur a expliqué que ça pouvait attendre la fin du mois de juillet, et sur les grandes surfaces, ça n'est jamais arrivé. Et du coup, ça nous ramène à ce fameux non-essentiel. Et ce non-essentiel résonne fortement comme une injonction d'un choix de société. Et c'est à cet endroit-là où, du coup, ça devient extrêmement violent. Parce qu'à un moment, moi, si on me dit que le masque, il est nécessaire, il est nécessaire. Si la vaccination peut sauver des vies, elle peut sauver des vies. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas forcément ça. C'est à quel moment, à un moment, on dit que dans un avion, ça ne circule pas et qu'on trouve des arguments fallacieux pour nous expliquer que dans un avion, il n'y a pas de souci, alors que dans un théâtre, il y a un souci. Là où les théâtres ont rarement autant de place que dans un avion.
15 ans pour la compagnie ACT, Cédric Brossard. Alors, on les fête comment?
Eh bien alors, on les fête.
Alors, avec du champomy
que, avec du champomy, j'espère. Donc, en janvier 2020, nous étions accueillis au DOC, en création, en résidence de création, où on créait donc une pièce qui s'appelait à l'époque Le Cadavre dans l'œil et qui est devenue 8 novembre. Donc 8 novembre, ce n'est pas le rendez-vous, parce qu'on s'y prendrait vraiment à l'avance, c'est le nom de la pièce.
Quand on a préparé l'émission, je vais tout vous dire, c'est qu'effectivement, je pensais que ça allait avoir lieu le 8 novembre, mais effectivement, c'est le nom de la pièce. C'est le 25 mai, mais bon.
On a dit à l'auteur que c'était... pas judicieux comme
on confirme
comme titre mais bon
mais c'est drôle
en fait c'est un titre qui est chargé de sens on va en parler après donc cette pièce accueillie en résidence au DOC en janvier 2020 a été créée au théâtre du Grand Rond à Toulouse en mars 2020 et dès qu'on a terminé on a rangé le décor, on est tous rentrés dans nos appartements et on s'est enfermés pendant
3 mois, hein.
2 mois et demi, hein. C'est ça.
Mais je sais pas, parce que 2 mois et demi, parce que ici à la maison des associations, c'était fermé pendant 5 mois, j'étais tout seul. Hein, donc pour moi, c'est beaucoup plus long.
C'est ça. Oui. Et du coup, c'est la première fois que cette pièce va être jouée en public à Cahors. Donc les docs s'étaient engagés à aller au bout en fait, de cet accompagnement, de ce cheminement et à programmer la pièce. À chaque fois, avec tous les enjeux de report de saison, d'annulation, etc. On a enfin fini par trouver une date, le 25 mai prochain.
Et dans une belle salle.
Dans une belle salle.
Parce avec que, de belles coup, conditions quand même. Pour,
tout à fait. Donc, dans le projet de territoire, en fait, il est demandé aux DOC, qui ont une mission au moins au niveau de l'agglo, de pouvoir proposer en fait des spectacles dans les salles de l'agglomération et notamment à la Prade. Donc là on est vraiment en décentralisé. Alors, c'est un décentralisé
c'est léger,
ça voisin va. Ça va, ouais, hein, ça va. Voilà. Alors moi après il y a une petite saveur particulière parce que je suis pradinois d'origine, j'ai fait mon école maternelle, primaire, j'ai vécu à Pradines.
Dans l'école en face de la salle de la Prade, ça serait drôle.
Non, pas dans celle-ci, j'étais à la Bérodie.
D'accord.
Mais bon, du coup forcément jouer, présenter ce spectacle à Pradines, ben oui, voilà, ça a une saveur. Je pense que mes premiers ateliers théâtre, c'était avec le théâtre-école de Pradines il y a fort longtemps.
Et pourquoi 8 novembre alors, au final ?
Alors, 8 novembre. Donc, cette pièce de Akimba. Donc, Akimba, auteur avec lequel on était en compagnonnage d'auteur depuis 2018. On lui a passé une commande d'écriture. Et avant cette commande d'écriture, moi, je voulais explorer un autre de ses textes, un monologue qui s'appelait « Le cadavre dans l'œil ». Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Écoute Cédric, si tu veux monter ça, ok, mais il faut que je la réécrive. Parce que ça fait trop longtemps que je l'ai écrit, j'ai bougé dans mon écriture et aussi dans mon ressentiment. » C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Guinée-Conakry, 1958, le général de Gaulle fait la tournée de toutes les colonies françaises pour leur annoncer qu'elles vont avoir leur indépendance et qu'elles peuvent rejoindre la communauté française proposée par de Gaulle aux anciennes colonies. Et tout est extrêmement calé, il était très pointilleux sur le protocole, donc tout roule comme sur des roulettes. Il arrive en Guinée et là, Sékou Touré se lève et lui dit « Monsieur le Président, vous nous proposez une communauté... financière, etc. Mais en fait, on tient à vous le dire, nous ne voulons pas vivre en esclavage. Nous préférons la dignité dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Et en gros, donc, il décide que la Guinée sera indépendante tout de suite, séance tenante et de manière totale. De Gaulle prend ça pour un affront phénoménal et la Guinée en a payé très très cher le prix. Sékou Touré devient président de la Guinée pendant 25 ans. Et finalement, il règne sur la Guinée d'une main de fer. Alors, c'est aussi ce qui est très intéressant dans les nuances et dans les ambiguïtés de l'histoire. C'est que pour certains, et pour autant il l'est, c'est le père de l'indépendance guinéenne, un panafricaniste immense, l'homme qui a dit non à De Gaulle. C'est pas rien par rapport à toutes les révolutions africaines qui ont eu lieu. Et pour autant, il a fait enfermer tous ses opposants politiques. Il a régné sur la Guinée pendant 25 ans. Il a créé des camps d'enfermement, dont le camp Boiro dont parle cette pièce. Et tous ses opposants politiques, les Diallo Telli et compagnie, se sont retrouvés pendus sur un pont qu'on a appelé le pont du 8 novembre, sous lequel avaient lieu les pendaisons publiques, où toute les habitants de Conakry étaient invités pour faire la fête parce que la révolution... exécuter ces traîtres.
Pas chouette cette pièce au final.
Elle n'est pas chouette du tout.
C'est une pièce historique presque.
C'est une pièce historique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce camp Boiro, qui était un camp, 25 000 morts, 50 000 morts pardon, sur 25 ans, que des prisonniers politiques, en fait, a été remplacé par un camp militaire. Et quand Hakim était jeune en Guinée, le fameux pont du 8 novembre, qui était tristement célèbre, a été rasé par des bulldozers pour être transformé en échangeur. Et en fait, lui, à cette époque-là, a été vraiment heurté par ça en se disant « Mais on ne peut pas, une page comme ça, tout simplement la raser. » C'est comme si on rasait Auschwitz et on en faisait un parc avec des jolis arbres pour aller se balader, sans même en mettre une plaque ou quoi que ce soit. À un moment, on ne peut pas raser une page de l'histoire d'un peuple. Donc finalement, cette plaque commémorative, c'est cette pièce.
D'accord.
Il s'est auto-missionné par lui, pour un devoir de mémoire, d'écrire là-dessus. Donc forcément, à cette époque-là, il y a presque 10 ans, il écrit cette pièce, c'est un cri du cœur. Voilà, il y a une certaine nécessité. Quand en 2018, je lui propose de monter ça, lui souhaite le réécrire. D'une part parce qu'il a grandi dans son écriture et qu'il trouve qu'il y a trop de fragilité, et d'autre part parce qu'il a aussi bougé, lui, par rapport à la nécessité d'écrire cette pièce à ce moment-là.
Mais ça ne doit pas être évident pour des comédiens qui ont peut-être vécu la même chose de jouer ça, quoi, en fait, au final, quand on y pense.
Alors, c'est pour ça que, pour moi, ça a été très important d'explorer différents types d'expressions sur cette pièce. C'est-à-dire qu'on a un comédien qui raconte cette histoire. C'est l'histoire, donc c'est son histoire, pas personnelle au comédien. Le comédien est camerounais. mais par extension, en fait, il y a quand même des échos politiques hein, très, très forts. Mais donc, c'est ce jeune homme qui est né dans le camp Boireau, qui a grandi, qui a vu son père mourir, qui aujourd'hui est un jeune adulte qui traîne dans Conakry. Et en fait, on imagine qu'il est avec ses potes et qu'il assiste à la destruction du pont du 8 novembre. Ouais. Et de là ressurgit toute cette histoire qu'il nous livre. Et en fait, ces deux amis, ces deux acolytes, alors ça c'est vraiment un choix parce que c'est pas écrit dans la pièce, ça reste un monologue avec un seul personnage. Moi j'ai décidé de lui adjoindre deux acolytes qui s'expriment différemment. Un est un danseur hip-hop et s'exprime avec son corps. Et donc c'est ponctué, traversé de moments de chorégraphie, de danse, de performance vraiment hip-hop. Et le troisième musicien vient du monde du beatbox. Et donc, il y a une loop station, il a quelques instruments, et sinon, il fabrique tout avec la bouche en instantané. Rien n'est enregistré, tout se fabrique au fur et à mesure de la pièce. Et donc, on a vraiment ce dialogue qui se tisse entre la musique, la danse et le jeu.
C'est plus du coup un spectacle qu'une pièce de théâtre au final, alors. C'est très complet.
Complètement.
Complet. Ouais, ouais. C'est à la salle La Prade.
Tout à fait.
Le 25 mai, et ça s'appelle 8 novembre.
La
billetterie, vous pouvez déjà la trouver sur le site des docks de Cahors. En plus, il y a de la place, hein, c'est pas ce qui manque à La Prade, c'est ça qui est bien. Hein,
c'est ça. Par contre, si c'est pas assez rempli, ça se verra. Donc,
aussi, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, on compte effectivement sur vous. Donc, rendez-vous le 25 mai pour une pièce qui s'appelle 8 novembre. Voilà, on vous l'a dit. À la salle La Prade de Pradines. En quelques mots pour terminer, très rapidement, Cédric Brossard, c'est le projet de fabrique francophone, où est-ce qu'on en est?
Bah alors ça avance doucement, c'est un long processus.
C'est un très gros projet.
Mais ça avance et nous aurons sûrement l'occasion de venir en parler, mais notez déjà les dates, les 17, 18 et 19 juin prochain, nous allons avoir une première manifestation culturelle dans toute la ville de Cahors, le cœur du festival, c'est pas un festival, le cœur de la manifestation se situera sur les allées Fénelon, il y aura des rencontres au théâtre de Cahors, dans les jardins privés en lien avec Cahors-Juin Jardin, dans les librairies Calligramme, La Fourmi Rouge. Et voilà, on va vraiment inviter, on aura une dizaine d'auteurs qui seront invités, on aura des performances, des rencontres littéraires, des rencontres en librairie, des restitutions d'ateliers, il y aura tout plein de choses. Et en fait, l'idée, maintenant, ça y est, on a pris notre abonnement sur le troisième week-end de juin. Le premier, c'est Cahors-Juin Jardin. Le deuxième, c'est Let's Doc. Le troisième, on le réserve. Et ce sera un moment, un rendez-vous avec les Cadurciens de tout ce qui se fabrique à la fabrique francophone.
Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler 17, 18 et 19 juin.
Exactement.
Voilà. Et en attendant, rendez-vous le 25 mai pour cette pièce, le 8 novembre, à la salle La Prade de Pradines par la compagnie ACT, dont Cédric Brossard, le metteur en scène, est venu nous parler. Merci Cédric.
Merci Yannick.
À très bientôt.
Avec plaisir.
C'est la fin de ce magazine. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr et puis aussi également tout à l'heure en rediff à 17h et à 21h30. Vous restez avec nous dans un instant, c'est le journal.